Les deux orphelines, première partie, chapitre 14. Les deux orphelines avaient été témoins des scènes qui venaient de se succéder à quelques pas d'elles et dont le dénouement imprévu était bien de nature à les impressionner. Brisées d'émotion, Henriette et Louise se soutenaient à peine. La nuit était venue. Les réverbères étendaient leurs lueurs fumeuses tout le long des quais, à l'entrée de la rue Dauphine et sur le pont Neuf. Henriette avait regardé de tous les côtés pour voir si enfin ce monsieur Martin allait paraître. Quant à Louise, maintenant qu'elle n'avait plus Marianne pour distraire son esprit de l'idée qui s'y était fixée, elle se reprit à être inquiète. Comme tous les aveugles, elle l'interrogeait beaucoup. Aussi demandait-elle à chaque instant à Henriette. « Eh bien, petite sœur, « Rien, ma chérie. Attendons alors. » Pendant ce temps, la fleur était sortie, comme un fantôme, de la ruelle où il s'était prudemment réfugié lorsque les soldats du guet avaient paru sur le quai. « Peste !» avait-il murmuré. « Voilà des particuliers qui ont la réputation d'être terriblement curieux. » Et il ajoutait mentalement. « C'est que je ne tiens pas du tout à leur dire ce que je viens faire ici. Et pourquoi le carrosse qu'ils ont déjà dû remarquer stationne à quelques pas ?» Tout d'abord, le rusé valet avait craint que la scène se prolongeât entre les soldats et celle qu'il allait emmener. Aussi eut-il un véritable mouvement de joie lorsqu'il vit le groupe, au milieu duquel s'était placée Marianne Vautier, se diriger vers le bureau de police. D'un bond, il sortit de sa retraite. La rue était presque déserte. La fleur allait chercher ses deux acolytes dans l'endroit où ils s'étaient tenus. « Faites avancer la voiture !» fit-il à l'un d'eux. « Elle nous suit à quelques pas de distance, » répondit l'autre. « Enfin, les voilà seuls, » fit la fleur en se frottant les mains, et il ajouta, en manière de recommandation. « Vous m'avez bien compris. C'est la grande qu'il me faut. Je me charge de la conduire à la voiture, et en cas de résistance... » Un de ses hommes lui montra un mouchoir arrangé en forme de bâillon. « Très bien, » ricana la fleur. « Il n'y a plus un chat dans la rue. En avant, et soyons malins, la fleur. » Henriette Gérard, à force de se raisonner, s'était un peu remise de l'émotion qu'elle avait ressentie en voyant que la nuit avançait et que les rues devenaient de plus en plus désertes. Elle dit tout bas à sa compagne. « Tu as eu bien peur, ma Louise, et moi aussi, je t'assure. Le fait est que pour notre arrivée, c'est une bien triste histoire. Et malheureusement, je crois que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. » Et pour la centième fois, elle se mit à répéter. « Qu'est-ce que nous allons devenir si ce monsieur... »« Attends !» interrompit vivement Henriette en serrant le bras de sa sœur. « Attends, ma Louise, voici quelqu'un. »« Est-ce lui ?» demanda l'aveugle avec un mouvement d'anxiété. « Tu sais bien que je ne le connais pas. »«
C'est vrai. » »«
Mais, » reprit Henriette, « la personne que je vois est un monsieur d'un certain âge. »«
Comme monsieur Martin. » »«
Et il semble venir par ici. »«
Nous regarde-t-il ?»
s'informa l'aveugle.
« Oui.
Alors Dieu soit loué, c'est lui !» s'exclama Louise.
« C'est monsieur Martin !»«
Je crois effectivement, dit Henriette, que ce doit être lui. » Alors les deux voyageuses, confiantes et pleines d'espoir, reprirent leur place sur le banc. Elles ne se tenaient plus d'impatience. Même Henriette regardait en dessous l'homme qui faisait mine de vouloir se rapprocher d'elle. Et mentalement, elle se disait. « Si c'est lui, pourquoi hésite-t-il ? Il a bien dû se douter que nous sommes celles qui l'attendent. Alors pourquoi ne vient-il pas tout de suite à nous ? » C'est qu'en effet, Maître Lafleur n'avançait qu'avec une excessive prudence. Le rusé drôle voulait, avant d'entamer l'action décisive, s'assurer contre toute surprise désagréable ou dangereuse. Le temps avait marché et des incidents s'étaient succédés qui l'avaient empêché d'aller de l'avant, comme il convenait, pensait-il, de le faire pour réussir. Il supposait non pas que M. Martin eût pu se réveiller, mais qu'un passant, entendant les cris des deux jeunes filles, pourrait avoir la curiosité de s'informer de quoi il s'agissait. Ce n'est donc qu'après s'être assuré qu'il n'y avait pour lui aucun danger que le valet du marquis de Presles se mit en marche dans la direction du banc sur lequel étaient assises les deux voyageuses du coche d'Évreux. Avant de se présenter, Maître Lafleur repassa rapidement dans sa mémoire les quelques paroles qu'il avait jugé être nécessaire pour entrer en matière. Puis il fit les trois derniers pas et s'adressant aux jeunes filles. « Pardon, mesdemoiselles, »
dit-il du ton le plus respectueux qu'il put trouver. « Je crois que c'est vous que je cherche. Vous arrivez d'Évreux, n'est-il pas vrai ?»«
Oui, monsieur, et nous attendons... »
« Un sieur Martin, auquel vous avez été recommandé. »«
C'est moi, mesdemoiselles.
Et j'ai bien des excuses à vous faire, car je suis fort en retard à ce que je vois. »
Nous commencions à être très inquiètes.
Je suis vraiment désolée.
Mais il n'y a pas tout à fait de ma faute, quand on demeure à l'autre bout de Paris.
« Comment, si loin ?»
dit Henriette, très étonnée.
« Vous disiez dans vos lettres, ajouta Louise, que vous habitiez à côté du Pont-Neuf.
« Peste, se dit la fleur, voici que je fais des écoles maintenant, comme si j'étais novice dans le métier. »
Aussi s'empressa-t-il de réparer l'effet de la parole imprudente qui venait de lui échapper.
« C'est juste, fit-il d'une voix mielleuse et en se frottant les mains, pour reprendre contenance. « Je demeurais tout près d'ici autrefois, seulement j'ai déménagé, depuis hier. »«
Depuis hier ?» murmura Louise, dont la main serra fiévreusement celle de sa compagne. Henriette, elle, regardait son interlocuteur avec un commencement de méfiance, en ajoutant tout bas et comme en aparté.
« C'est singulier !»
Mais la fleur releva le mot, et tout en s'efforçant de rire.
« Qu'est-ce qu'il y a de singulier à ce qu'on déménage du jour au lendemain, ma chère demoiselle ? » dit-il.
« Ça ne se fait peut-être pas en province, à Évreux, d'où vous venez. Mais à Paris, ça se voit tous les jours. »
Le valet du marquis de Presles avait hâte d'en finir. Aussi, avisant un petit colis qui se trouvait sur le banc, il s'en empara sans plus de façon, en disant
« Ce sac est à vous, sans doute. Je vais m'en charger, si vous le permettez. »
Puis, arrondissant le bras,
« Si vous voulez maintenant accepter mon bras, mademoiselle, je vais vous conduire à la voiture que j'ai retenue et qui nous attend là à deux pas. »
Henriette, au lieu d'accepter le bras qu'on lui présentait, avait instinctivement fait un pas de retraite. Louise s'accrocha des deux mains à elle avec une vivacité qui témoignait d'une certaine indécision à laisser sa compagne suivre l'homme qui venait de parler.
« Pardon, fit Henriette d'un ton mal assuré, avant de vous suivre, monsieur... »
« Eh bien, quoi ?» interrompit le valet.
« Nous voudrions être sûrs. »«
Oui, bien sûr, » ajouta vivement Louise.
« Sûr de quoi, mesdemoiselles ?»
riposta la fleur. Il avait été sur le point de brusquer la situation. Mais comme la croisée du cabaret était encore entr'ouverte et qu'on y voyait de la lumière, le prudent garnement jugea qu'il fallait procéder avec plus de patience afin de ne pas donner aux jeunes filles l'occasion de crier, d'appeler au secours. Il reprit donc en simulant une surprise nuancée d'une petite pointe de dépit.
« Est-ce que, par hasard, vous me feriez l'injure de douter ?»
Puis, prenant un air de bonhomie admirablement joué.
« Ah, mademoiselle Henriette, » ajouta-t-il en souriant, « vous avez le caractère un tant soit peu méfiant à ce que je vois. Heureusement que vous rachetez cela par de précieuses qualités. »
Louise écoutait. La fleur s'en aperçut.
« N'est-ce pas, mademoiselle Louise ?» continua-t-il en s'adressant cette fois à l'aveugle, « que votre amie a pour vous de l'affection et des soins, absolument comme si elle était votre véritable sœur. »
Ces mots, prononcés d'un ton qui affectait une certaine émotion, produisirent l'effet qu'en attendait le valet du marquis de Presles. Henriette regrettait presque d'avoir laissé voir à M. Martin le soupçon qu'elle avait conçu. Louise s'était penchée à son oreille pour lui dire tout bas,
« Tu vois bien que c'est lui, puisqu'il nous connaît. »
Pour augmenter la confiance des jeunes filles, la fleur s'empressa de continuer.
« Oui, mes chères demoiselles, je vous connais absolument, comme si j'avais toujours vécu avec vous. Ma belle-sœur, qui vous aime bien, a pris soin de nous renseigner, Madame Martin et moi, sur tout ce qui vous concerne. Aussi, nous vous aimons déjà avant de vous connaître. »«
Vraiment, monsieur ?» dit Louise avec son angélique sourire. « Vous savez toutes les bontés que notre bonne mère Gérard a eues pour moi ?»
« Oui, mademoiselle, pour vous qui n'étiez cependant qu'une... une étrangère, oui, monsieur. »
La fleur feignit d'être profondément émue, et il ajouta en faisant chevrotter sa voix.
« Je connais toute cette touchante histoire, pauvre cher enfant. »
Mais le temps employé en effusion était du temps perdu pour lui, pensait la fleur, qui avait de plus en plus hâte d'en finir. Il ajouta en affectant le ton paternel.
« Ah, je vois que ma belle-sœur n'avait rien exagéré. Vous êtes bien telle qu'elle nous l'avait écrit, en nous annonçant votre arrivée à Paris. Aussi, mon épouse va-t-elle être enchantée ?»
Puis, s'interrompant pour consulter le cadran de sa montre.
« Peste, voilà qu'il se fait tard. Madame Martin doit nous attendre avec la plus grande impatience.
Elle est, j'en suis certain, dans l'huile bouillante.
Il doit lui tarder de vous voir, mes chères demoiselles.
Le valet n'était pas sans inquiétude, à en juger par les regards qu'il lançait dans toutes les directions pour s'assurer que personne ne viendrait le déranger. Mais le plus sûr était, pensait-il, de brusquer le départ.
« Venez, mademoiselle, » dit-il en s'adressant à Henriette, et cette fois en laissant percer une si vive impatience qu'elle le regarda avec un profond étonnement. Mais, sans hésiter davantage, il lui saisit brusquement le bras. En ce moment, les deux aides de la fleur, qui s'étaient approchées, vinrent se placer à ses côtés. Ce mouvement fut aperçu par Henriette, qui allait interroger de nouveau le prétendu monsieur Martin, lorsque la fleur lui coupa la parole en s'écriant.
« Voyons, mademoiselle, après tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous douteriez encore de moi? Faut-il que je fasse établir devant vous mon identité?
Rien de plus facile. Voici précisément deux amis, deux voisins, et je vous assure, d'honnêtes bourgeois du quartier. Ces messieurs ne demanderont certainement pas mieux que de me servir de répondant. »
Le gredin avait tout en parlant échangé un signe d'intelligence avec les deux chenapans à sa solde. Ceux-ci avaient mis le chapeau à la main et s'avançaient, l'échine courbée.
Vous servir de répondant? Répondait Henriette tout étonnée de voir surgir ces deux hommes qui se confondaient en salutations.
Louise avait compris qu'il devait se passer quelque chose d'étrange et dont elle ne pouvait, la pauvre aveugle, se rendre compte. Elle dit tout bas à sa compagne.
« Henriette, ne me quitte pas, je t'en prie. »«
Non, ma chérie, non, sois tranquille, n'aie pas peur, ne tremble pas ainsi. » Mais elle s'interrompit brusquement. Sur un geste de la fleur, les deux hommes s'étaient placés entre elle et Louise, de façon à séparer les deux jeunes filles.
« Qu'est-ce que cela signifie, messieurs ? » fit Henriette.
Mais le moment était venu pour la fleur de se démasquer, et c'est en abandonnant le ton mielleux et paternel qu'il avait pris jusqu'alors qu'il dit impérieusement.
« Assez de temps perdu. Prenez mon bras, mademoiselle, et en route. »«
C'est vous qui me parlez ainsi, monsieur Martin ?» hasarda Henriette en refusant le bras de son interlocuteur. Mais le valet répliqua en ricanant.
« Oui, mademoiselle, oui. » Il faut le suivre tout de suite, ce bon monsieur Martin. »
Il s'efforçait alors de la saisir par la taille. Henriette s'était débattue silencieusement pour ne pas effrayer Louise. Deux fois elle était parvenue à se dégager, échappant à la fleur pour s'élancer vers l'aveugle, que les deux hommes retenaient sans peine à distance. Mais Henriette avait été ressaisie par la fleur, et comme malgré ses efforts elle ne pouvait plus se débarrasser de l'étreinte du misérable qui la retenait prisonnière, la jeune fille s'écria.
« Nous ne vous suivrons pas, monsieur. Non, nous ne vous suivrons pas. »
Et tordant ses bras, que retenait le valet dans ses mains comme dans des étaux, elle eut une dernière exclamation.
« Louise, viens, viens à moi !»
Mais elle ne put achever. Pendant que la fleur la tenait, la tête renversée, un des hommes lui mit un bâillon. Puis les deux coquins l'emportèrent dans la direction du carrosse. Déjà, la fleur, sans s'inquiéter le moins du monde de ce qu'allait devenir l'aveugle, avait pris les devants. Il tenait la portière ouverte. Henriette fut déposée dans la voiture, malgré sa résistance désespérée. Tout d'abord, la malheureuse, trompant la surveillance de ses gardiens, avait essayé de se débarrasser de son bâillon. Si elle eût pu y parvenir, elle eût été sauvée. Elle eût crié au secours, et, comme il y avait encore du monde dans le cabaret, quelqu'un serait certainement accouru, ne fût-ce que par curiosité. Mais l'un des hommes lui saisit le bras et serra un peu plus le mouchoir qui servait de bâillon. Violemment secouée, Henriette s'affaissa sur le coussin de la voiture. En un clin d'œil, la fleur avait pris place à côté d'elle, tandis que ses deux aides occupaient la banquette de devant. Le carrosse partit au galop. Cependant, la fleur n'était pas au bout des incidents imprévus. Tout à coup, au détour d'une rue, la voiture s'arrêta, prise dans un inextricable encombrement. Les deux hommes mirent vivement la tête à la portière, tandis que, très contrariés de ce nouveau retard, la fleur cherchait à parler au cocher pour lui dire de prendre par une autre rue, si c'était possible. En ce moment, quelques curieux s'arrêtèrent aux deux portières de la voiture, cherchant à voir le visage de la femme dont ils avaient aperçu la robe. La fleur se sentit mal à l'aise. Il y avait là de jeunes gentilshommes, l'un d'eux pourrait bien avoir la fantaisie d'ouvrir brusquement la portière et de se déclarer le défenseur de la belle qu'on enlevait. Son inquiétude prit bientôt des proportions plus grandes encore. La jeune fille se démenait sur la banquette et un râle s'échappa de sa gorge.
« Elle étouffe !» pensa le valet.
Il devenait prudent d'enlever le mouchoir, cause principale de la suffocation que subissait Henriette. Il n'y avait pas de temps à perdre
car le visage de la jeune fille se marbrait de plaques rouges et ses yeux s'injectaient. La fleur dut se décider à débarrasser la victime du dangereux bâillon qui l'étouffait. Mais, comme il était homme de précaution, il tira délicatement de son gousset le flacon de cristal qui contenait encore une dose suffisante de narcotique. « Pas de bâillon, soit !» se dit-il. Mais grâce à cette excellente préparation, Mademoiselle Henriette se laissera emmener comme un agneau au pavillon du Bel Air. Dans la rue, les cochers s'invectivaient entre eux. Les piétons, arrêtés dans leur marche, criaient, tempêtaient. Les badauds s'amusaient du désordre et excitaient par leur lazie tous ces mécontents. Profitant de ce brouhaha, la fleur s'était mise en devoir d'enlever le bâillon d'une main, tandis que de l'autre, il se préparait à verser le narcotique dans la bouche de la jeune fille au premier cri qu'elle pousserait. Mais il n'eut pas besoin d'employer la force pour obtenir le résultat qu'il espérait. À peine Henriette fut-elle débarrassée du bâillon qu'elle poussa un long soupir et ses yeux se fermèrent à demi. Puis elle se laissa glisser au fond de la voiture. La pauvre enfant avait perdu connaissance. La fleur eut un tressaillement de joie. Il n'avait pas compté sur ce secours qui lui arrivait à point nommé. Désormais, il était certain du silence de la victime. Mais il se prit à songer que le hasard avait de singuliers caprices et qu'après l'avoir servi à souhait, il pourrait bien lui jouer quelque mauvais tour de sa façon. Il suffisait pour cela que la jeune fille, sortant à l'improviste de son évanouissement, se mit à crier, à se débattre, pour qu'aussitôt la foule entourât la voiture. Dans ce cas, Maître Lafleur et ses acolytes passeraient un bien vilain quart d'heure. On pourrait bien les entraîner, bon gré mal gré, au bureau de police. Or, ces messieurs, et pour cause, n'aimaient pas beaucoup à se trouver en contact avec les soldats du guet. Le valet du marquis résolut alors de changer la syncope de sa victime en un lourd sommeil qui résisterait assurément à tous les chaos de la voiture. Il se mit à tourner le petit flacon de cristal entre ses doigts, comme aurait pu le faire un chirurgien qui va procéder à une opération délicate. C'est qu'il se présentait une petite difficulté. Comment allait-il s'y prendre pour administrer le narcotique ? Un simple petit mouvement de la jeune fille pouvait faire que le précieux liquide se renversât tout le long des lèvres. Et alors, adieu le sommeil ! Il faudrait, en cas de réveil, recouvrir au bâillon. « Diable ! » fit mentalement la fleur. « Je n'avais pas songé à cela. » En ce moment, Henriette se mit à exhaler, à de courts intervalles, deux de ses soupirs qui indiquent la fin d'une syncope. Attentif, les yeux fixés sur le visage de sa victime, le valet attendait. Soudain, les paupières d'Henriette s'agitèrent et une seconde plus tard, ses yeux s'ouvrirent tout grands. La jeune fille eut un moment d'hésitation. Puis, retrouvant le souvenir, elle ouvrit les lèvres pour pousser un cri de détresse. La fleur saisit habilement le moment propice. Renversant la tête de la jeune fille, il introduisit entre ses lèvres le goulot du flacon. Le liquide coula tout entier dans la bouche et fut absorbé jusqu'à la dernière goutte. Henriette, suffoquant, fit un effort pour se relever. Mais la fleur, aidée par ses deux complices, la maintint renversée. La pauvre enfant tourna vers ses bourreaux des yeux effarés, suppliant. La voix expira sur ses lèvres. En vain, elle essaya de repousser les misérables qui paralysaient ses mouvements. Ses bras retombèrent sans force. Elle était aux prises avec un irrésistible sommeil. Bientôt, ses paupières alourdies se fermèrent, sa tête s'appuya sur le capiton de la voiture. Cette fois, elle était bien au pouvoir de la fleur. Le drôle, satisfait de son œuvre, pencha la tête à la portière pour voir si enfin le cocher pourrait bientôt dégager le carrosse. Il jouait décidément de bonne heure, ce misérable Lafleur. En effet, l'encombrement allait cesser. Déjà, plusieurs voitures avaient pu se désenchevêtrer et prendre par les rues de traverse, permettant ainsi aux chaises à porteurs de circuler pour faire place aux piétons. Le cocher enveloppa ses bêtes d'un vigoureux coup de fouet et le carrosse s'ébranla au risque de renverser les badauds qui faisaient cercle autour des attelages arrêtés. De violentes interpellations commencèrent. « Arrête, cocher de malheur ! Canaille, valet de bourreau !» Impassible sous cette grêle d'injures et de menaces, le cocher enleva vigoureusement ses bêtes. Et le carrosse partit à fond de train dans la direction du pavillon du Bel Air. Alors, pour la première fois depuis le commencement de cette affaire, le valet du marquis poussa un long soupir de soulagement. Il était maintenant au bout de la coupable besogne dont il s'était chargé. Son cœur se dilatait à la pensée qu'il allait toucher la récompense promise. Et, tout à la satisfaction d'avoir mené à bien son entreprise, la fleur regardait cette malheureuse jeune fille qu'il allait livrer au débauché qui l'attendait avec impatience. Henriette dormait profondément. Elle dormait, la pauvre enfant, et son sommeil paraissait troublé par des cauchemars, car, par moments, son visage se convulsait et ses lèvres étaient agitées, comme si, dans son rêve, elle eût parlé, appelé au secours. Son front se plissait et sa poitrine se soulevait. L'infortunée haletait. Puis elle retombait dans l'immobilité, anéantie, brisée, et un immense désespoir se peignait sur son visage. Peut-être dans ce douloureux sommeil, la pauvre Henriette voyait-elle en rêve la scène qui se passait à l'entrée du Pont-Neuf, en face du cabaret, à l'endroit où, bâillonnée et enlevée par la fleur, elle avait laissé Louise, toute seule, Louise aveugle, abandonnée, la nuit, dans cette immense ville.